Vous écoutez Radio Capi. Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end souvenir avec moi. Samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Vous savez, il y a des couples qui vivent en conflit permanent. À la base, l'éducation des enfants, l'argent, le problème d'argent, la vie sexuelle et autres. Alors, ces confrontations conjugales empoisonnent le climat familial. Pour éviter les querelles, certains hommes passent beaucoup de temps à l'extérieur avec des amis. Ils reviennent tard pour dormir, pour éviter le problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour établir la paix dans un tel foyer? Nous recevons à présent Isidore Bamanaï de Kungujimai. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Alors Isidore, lorsqu'il y a des conflits à tout moment, des conflits, des tensions permanentes dans un couple, d'abord qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce genre de situations et comment les gérer?
Oui, merci pour la question et merci pour les sujets que vous soulevez aujourd'hui et que vous avez dit que quand il y a des conflits permanents dans un couple, ça empoisonne toute l'atmosphère,
oui.
Ce qui est très vrai d'ailleurs. Moi, je pense que les origines sont diverses. Mais je voudrais, avec vous et les auditeurs qui nous écoutent, qui vont aussi intervenir, je voudrais peut-être faire une autre démarche.
Oui.
L'autre démarche, c'est chercher à savoir quelle est l'histoire de ce couple-là. Et quand on veut savoir quelle est l'histoire de ce couple, on se posera des questions essentielles. Pourquoi ils se sont mariés et comment ils se sont mariés? Je commence par comment. Et quelles sont les conditions qui ont fait que cet homme se marie à cette femme? Ça peut être une circonstance hasardeuse, ça peut être un problème qui est survenu entre les deux. Il y a eu une grossesse non désirée et que les deux camps ont dit, bon, vous devez vous marier.
Mm-hmm.
Et pour éviter des problèmes, pour essayer de calmer les deux familles, l'homme va se dire, bon, je prends ma responsabilité, je vais la prendre en mariage. Et il y a un certain nombre de mariages qui ont commencé comme ça. Il y a aussi des cas où on s'est marié sur l'influence des amis et surtout sur l'influence de la famille ou des parents. Il y a des parents qui veulent choisir le conjoint pour leurs enfants,
mmh.
Et que l'enfant n'a rien à dire là-dessus, il n'a qu'à accepter. Souvent, ce n'est pas une personne de son choix, et quand on vit ensemble, le courant ne passe pas tellement. C'est aussi, par exemple, on est resté célibataire pendant longtemps, quelqu'un, on se croise sur la route, on se dit, bon, cette fois-ci, c'est la meilleure, il ne faut pas attendre, on n'a même pas eu le temps de savoir qu'est-ce qui se passe entre nous deux, et puis voilà, l'histoire du couple a commencé. Mais la question pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se marient pour une raison ou une autre qui est peut-être valable,
oui.
Mais ils oublient la raison fondamentale du mariage. S'il n'y a pas une raison fondamentale du mariage, le couple va vivre ensemble, ils auront des enfants, mais s'il n'y a pas cette raison fondamentale, les querelles vont commencer, et quand les querelles commencent, chacun rejette la responsabilité sur l'autre, voudrait se laver et dire « Non, moi j'ai raison dans ce qui nous est arrivé. » Bon, laissez-moi rappeler aux auditeurs que si on ne se marie pas parce qu'on aime la personne, je crois que les conflits qui peuvent diminuer, les conflits que l'on peut trancher facilement,
oui.
Les conflits qui peuvent passer et que le couple retrouve son harmonie, vont refaire surface tout le temps, parce qu'entre les deux, il n'y a pas tellement quelque chose. Mais quand il y a un amour réel, quand on voit la personne aimée,
oui.
Sa présence est agréable. Quand on voit la personne aimée, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. Le cerveau, le corps va produire l'hormone qu'on appelle dopamine, et cette hormone est envoyée au cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions et des sentiments, et cela rend la présence de l'autre agréable.
Oui.
Il n'y a pas que la présence physique, l'image, il y a même la voix, il y a même l'odeur, il y a même le toucher de la personne aimée qui sont qui est d'aggraver l'image dans le cerveau de l'autre, qui fait que chaque fois qu'on se retrouve, au lieu qu'on reprenne la querelle, c'est plutôt une ambiance bon enfant, c'est une ambiance d'entente presque parfaite.
Oui. Alors certains pensent
que la dopamine. Oui.
Oui. Isidore Momanaï, certains pensent qu'il y a, des tensions peuvent provenir par exemple de les devoirs des enfants. La femme dit à son le mari dit à la femme, c'est toi qui dois t'occuper des devoirs des enfants. Et elle dit non, c'est toi le papa, c'est toi qui dois aller à l'école, tu dois faire ceci. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent également générer des conflits.
Oui, ces petites choses-là génèrent des conflits parce que à la base du mariage, il n'y a pas cet amour qui fait que quand on est en présence l'un de l'autre, on se comprend mutuellement, on se comprend même dans les petits gestes, même dans les petits regards. Là où l'un est quelque chose ailleurs, l'autre reprend la relève sans problème. Mais si on se tiraille aujourd'hui, je vous assure, à mon point de vue,
oui,
que c'est parce qu'il n'y a pas cet amour qui fait que, à côté de la dopamine, le corps c'est l'hormone qu'on appelle cytocine, qui est l'hormone de l'attachement,
oui,
qui est l'hormone qui fait que même les gestes, on commence à le faire de la même manière, on croise les bras au même moment,
oui,
on soulève les jambes au même moment, on regarde dans la même direction, au lieu de se regarder l'un l'autre pour chercher la petite bête et commencer le conflit.
Oui, alors, Isidore Bamanaï, dans un couple, il y a aussi un problème de la répartition des tâches. Qui doit faire quoi? Parce que parfois, ça génère des incompréhensions dans le couple. Qui doit faire quoi? Quelle est la tâche de la femme et quelle est la part de l'homme,
oui,
dans la gestion
ça,
du foyer?
C'est un problème, merci beaucoup. Ça, c'est un problème de culture. Chez nous pensons que la femme elle doit tenir la cuisine, elle doit torchonner, elle doit laver les habits, elle doit laver les enfants, elle doit aller mettre de l'eau à la douche pour l'homme, elle doit aller enlever quand l'homme a fini de se laver, ainsi de suite. Bon, l'homme, bon, de manière classique, on dit que c'est lui qui doit chercher à manger pour la famille, c'est lui qui doit habiller la femme, c'est lui qui doit trouver la maison, ainsi de suite.
Oui.
Moi, je crois que si, à la base, l'homme aime sa femme et que la femme aime son mari, la répartition des tâches, c'est une question qu'on règle assez facilement. Je crois que si nous soignons les effets, nous oublions la grande cause, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets et le conflit va toujours refaire surface dans cette famille et les gens vont se demander mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre? Je crois que quand il y a cet amour qui manque, quand il y a cet écart entre les deux. Vous savez, il y a tout ce que j'ai dit là, c'est sur un DVD que nous avons reçu de MKD Média de Paris,
oui,
qui démontre très bien comment ça se passe dans le corps, par les odeurs, par les touchés, par les regards, comment l'image de l'autre est fixée dans le cerveau. Et si dans le cerveau de l'autre, on n'a pas envoyé la dopamine, les neurones projecteurs qui doivent capter la dopamine et la transmettre dans le cerveau limbique, le cerveau des sentiments et des émotions, s'il n'y a pas la dopamine, je crois que la présence de l'autre ne dit rien à la personne qui la voit, à ce moment-là, les tâches, l'argent, les devoirs des enfants, ça devient des sujets de conflit, au lieu que ça soit des petits problèmes qu'on peut régler facilement parce qu'on s'aime. Je crois qu'il faut creuser cette question-là sérieusement,
oui,
de telle manière que ceux qui sont entrés dans le mariage pour l'un ou l'autre motif, qu'ils apprennent petit à petit à s'aimer, qu'ils s'apprennent à s'approcher, qu'ils s'apprennent à se découvrir, à découvrir comment se comporte l'autre, et même à connaître la nature de l'un et de l'autre. Vous savez, nous sommes de deux natures différentes, l'homme et la femme. Même si aujourd'hui, on demande à la femme de faire ce que fait l'homme, nous sommes de deux natures différentes. L'homme est viril, l'homme est extraverti, l'homme voudrait comprendre tout avec son cerveau. Tandis que la femme est introvertie, la femme est douce, la femme agit par intuition. Voilà des éléments pour lesquels, quand on les néglige dans un couple, au lieu de trouver vite une solution à un conflit, le conflit va s'amplifier et je crois que la situation risque de dégénérer.
Des questions de réaction composées de 081-869-6394. Jean-Béni nous appelle de Kananga. Nous allons recueillir sa question tout à l'heure. Vous voulez participer par rapport aux tensions permanentes dans un couple? Appelez-nous 081-869-6394.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
Jean-Béni, bonjour.
Bonjour,
monsieur. Oui, quelle est votre question?
Ma question est de savoir qu'est-ce qui favorise la plupart des divorces dans les familles?
Qu'est-ce qui favorise la plupart des divorces?
Oui, dans les ménages, dans les familles.
Oui,
les divorces de ménage. Oui, le divorce, c'est la dernière étape où les gens disent il est impossible que nous puissions vivre ensemble, nous allons divorcer. Le divorce a plusieurs causes. La première, c'est l'incompréhension entre les conjoints. La deuxième, c'est peut-être les conditions matérielles dans lesquelles on vit. Le troisième, c'est peut-être l'interférence de personnes de l'extérieur, que ce soit les amis, que ce soit les membres des familles. Le quatrième, ça peut être les calomnies, les racontars. Il y a souvent dans les églises où nous allons beaucoup de prophéties qui parfois on arrive à dire à l'homme si votre histoire n'arrive pas à avancer, c'est à cause de cette femme, elle a un esprit maléfique, il faut vous en débarrasser. Il y a même des groupes où, quand vous y entrez, on vous dit non, celle-là, ce n'est pas votre femme, on va vous trouver une femme dans ce groupe de prière, celle-là même qui avait été créée pour vous par Dieu. Donc, il y a autant de causes qui font que les gens finissent par dire, bon, nous ne pouvons pas continuer à vivre ensemble. Et moi, je pense que la cause essentielle, c'est le manque de l'amour entre l'un et l'autre.
Oui.
Parce que s'il y a un amour contre vents et marées, contre tout ce qui peut arriver, le couple va tenir jusqu'à la fin parce qu'ils vont trouver de l'énergie dans leur amour pour se soutenir mutuellement et pour continuer à nager contre le courant, même s'il y a des conflits énormes qui peuvent survenir.
Oui, Ignace nous appelle de Colézy, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour, l'invité. Ma préoccupation est celle-ci.
Oui.
Lorsqu'il y a un conflit dû à ce que j'appelle le leadership, c'est que on peut tomber dans une situation où une femme n'aime pas naturellement être commandée. Donc c'est elle qui veut gérer la maison, qui veut commander ce genre de conflit. Comment s'y prendre?
Merci beaucoup, Ignace. Je pense qu'il faut bien tirer la chose au clair. Il y a aussi des situations où les hommes n'acceptent pas que la femme dise « moi je pense que ». Il y a des hommes qui croient que ce qu'ils disent, c'est la vérité de la Bible. La femme n'a qu'à dire « Amen ». On doit faire seulement la volonté de l'homme. Bon, mais la situation que vous évoquez, elle arrive de temps en temps. Il y a parfois des femmes de type masculin qui ont un peu plus de testostérone dans leur corps, qui ont un comportement comme celui-là. Il y a parfois des femmes qui ont un peu plus d'avoir que l'homme. Quand la femme a plus d'avoir que l'homme, elle commence peut-être à se comporter comme chef de ménage. Bon, moi je pense que il faut faire appel à son sens d'humilité. Si la femme, on la connaît, qu'elle est une femme de type masculin, elle doit s'en rendre compte et on doit l'aider pour qu'elle puisse se rendre compte que quand elle est au niveau de la famille, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais même alors, quand on est chef de la famille, on ne commande pas pour commander, on commande pour le bien de la famille, pour le bien de tout le monde. Et à ce moment-là, il y a moyen de commander ensemble, c'est-à-dire l'homme et la femme se mettent tous ensemble dans un état d'esprit, dans une vision, pour pouvoir évoluer correctement sans créer beaucoup de conflits au niveau de la famille.
Malonga nous appelle de Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel Kassam.
On vous écoute.
Ok. Moi, je vais demander seulement à l'invité, est-ce que divorce, c'est une infraction pénale? Si quelqu'un,
dommage, Malonga, on n'arrive plus à capter comme il faut votre question. Peut-être vous pouvez rappeler plus tard. Alors, Isidore Bamanaï, nous parlons avec vous de Voilà, on dit, on vous fait signe que ça va. Malonga, vous êtes en ligne?
Ok, merci beaucoup.
Allez-y.
Moi, je disais ceci.
Oui.
Je demandais ceci.
Oui.
Est-ce que le divorce, ça peut être classé dans des infractions pénales? Ou bien, si quelqu'un qui a le cas, ou bien quelqu'un ne peut penser seulement à se divorcer et puis il reste comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a seulement si une femme se réjouit et elle déclare que, en tout cas, moi, je pars chez nous. Pourquoi? Moi, en tout cas, je fatigue avec ce que je vis, ceci, cela, ceci, cela, et puis il part. Aussi, à un homme, il se réjouit, il décide carrément de se séparer avec sa conjointe. Est-ce que ça peut être considéré à une infraction pénale? Ou bien on le fera seulement le divorce se fait comme ça en divagation?
Merci. Isidore Bamanay.
Merci, Malonga. Divorce, infraction, bon, je n'ai pas lu le code de la famille récemment, mais je pense que tout ça est décrit dans le code de la famille. Si on peut parler infraction, c'est dans la mesure où le mariage a été enregistré à l'état civil du territoire ou de la commune. En ce moment-là, les deux qui veulent divorcer, ils vont divorcer devant l'État et non pas prendre entre eux une simple décision où ils peuvent dire, voilà, c'est fini, toi tu peux partir, moi je reste. S'ils sont mariés devant l'État civil, pour consommer le divorce, on doit se rendre devant l'État civil et l'État civil doit examiner s'il y a une cause réelle de divorce. S'il n'y a pas une cause de divorce, l'État civil va faire un effort pour réconcilier les deux. S'il persiste dans leur situation, il y a des sanctions que l'on doit prendre vis-à-vis de celui qui demande le divorce, les amendes qu'il devra payer, et par la suite, comment on peut assurer la charge des enfants. Tout cela est arrangé dans le code de la famille. Mais dans beaucoup de cas chez nous ici, on se marie, on commence à vivre ensemble, on a seulement peut-être versé la dot dans la famille de la femme, et puis après, on oublie qu'il y a l'État qui doit enregistrer le mariage.
Oui, il dit
que les gens se plaisent à se séparer,
oui,
à tout bout de champ, pour n'importe quelle raison. Mais même alors, s'ils sont déjà là et qu'ils ont des enfants, qu'ils commencent à se dire on va divorcer, l'une des parties peut aller devant l'État et dire nous sommes mariés coutumièrement, mais mon mari veut m'abandonner, j'ai 8 enfants, comment est-ce que je vais m'en sortir? À ce moment-là, je pense que l'État civil devra convoquer l'homme pour commencer tous les dossiers et peut-être aboutir à une conclusion dans un sens ou dans un autre.
Alors, Isidore Kepper, pour rétablir la paix dans un couple, où il y a beaucoup de tensions, oui, quelle est la stratégie, oui, qu'il faut appliquer?
S'il y a beaucoup de conflits dans un couple, moi je pense, malgré l'idée que ceux qui se marient, ce sont les deux âmes sœurs qui se retrouvent, qui se recherchent d'abord et qui se retrouvent. Si on n'est pas les deux âmes qui se sont retrouvées, on sera dans ce couple-là comme le jour et la nuit. Donc, la première des choses, il faudra connaître sa situation. Dans quel état on est dans ce mariage-là? Est-ce qu'il y a vraiment un amour? Si on arrive à la conclusion qu'il y a un amour, il faut cultiver cet amour-là.
Comment?
Si on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas un amour, il faut commencer à s'approcher, il faut commencer à apprendre à s'aimer. Cultiver l'amour, c'est-à-dire quoi? C'est dans tous les gestes de chaque jour, c'est dans la parole, c'est dans comment je regarde celui que j'aime, c'est dans comment je peux lui rendre service, c'est dans comment je l'accueille quand il rentre du marché ou de l'église, c'est dans comment on reste ensemble, on partage un repas ensemble autour d'une table, on se regarde dans les yeux et on se rend compte que dans les yeux là, il y a l'amour qui vibre là-dedans. C'est ça que j'ai dit, cultiver l'amour. Donc on doit cultiver cet amour. Si vraiment il n'y a pas d'amour entre les deux, il faut que les deux conjoints puissent se résoudre à s'imposer des sacrifices pour accepter de continuer à vivre ensemble. Je crois que c'est extrêmement difficile. Il faut que l'une des parties dise le conflit de l'autre commence par tel problème ou tel autre problème. Je ne veux pas aller de ce côté-là parce que ça risque de barger.
Oui.
Ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une stratégie,
oui,
pour commencer à vivre ensemble et espérer continuer dans la mesure où on s'est résolu à continuer à vivre ensemble.
Voilà.
Mais c'est aussi quand on parle qu'il y a un problème, qu'on s'exprime clairement et qu'on utilise je au lieu d'utiliser tu. Parce que quand on utilise tu, on est prêt à condamner l'autre, et quand on condamne quelqu'un, trouver une solution à un conflit devient compliqué.
Voilà.
Donc il faudrait peut-être dire moi je pense que, moi j'estime que, moi je désire que.
Voilà. Jean-Claude nous appelle depuis Isiro et Cédric est à Kinshasa. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, j'ai dit Kachaman, j'ai dit tous les objets de la radio Fatih.
On vous écoute.
Oui, je voulais poser la question à l'invité. Nous constatons qu'il y a de ces mariages-là qui font au moins 15 ans, mais vous n'avez pas d'enfant. Quel conseil vous pourrez donner à ces couples? Et il n'y a pas d'enfant, comment on va continuer à vivre?
Voilà, merci. Donc vous voulez dire que du fait qu'il n'y a pas un enfant, il y a beaucoup de conflits qui sont nés dans ces couples. C'est ce qui est une source de tension permanente. Ok, merci. Cédric à Kinshasa, bonjour. Cédric, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Laissez-moi m'expliquer un peu, vous allez répondre à ma question.
Oui.
Je voudrais dire ceci, une femme hindoue, une femme orgueilleuse, une femme qui n'aime pas une observation quelconque de l'homme, vous l'amenez sur la voie du dialogue, aucun résultat. Vous l'amenez sur la parole de Dieu, aucun résultat. Finalement, est-ce qu'il y a une autre voie de secours pour permettre à ce mariage de résister, parce que le comportement de la femme est si insensé, insolent plutôt, elle peut sortir et revenir à 1h du matin, l'homme n'a pas le droit de sortir pour revenir à 26h. Qu'est-ce qui explique une telle façon d'agir, une telle façon de se comporter? C'est ça être la question à notre invité.
Merci, Isidore.
Merci beaucoup pour les questions, Jean-Claude. Un couple qui n'a pas d'enfant jusqu'à 15 ans, oui, évidemment, c'est une source de conflit, parce que chaque parole sera interprétée dans un sens ou dans un autre, que peut-être l'homme voudra commencer à avoir les petites amies à côté pour essayer de voir si elle peut avoir un enfant. Et si l'enfant est né en dehors du couple, mais à la maison, c'est une source de conflit permanent. Bon, moi je pense que ceux qui se sont mariés et qui sont dans cette situation doivent adopter une stratégie commune. Ils acceptent les situations et puis ils peuvent se dire, pour remplacer l'affection que nous devions donner à nos propres enfants, on peut adopter un enfant orphelin ou quoi, on peut se rendre dans un orphelinat et dire, bon, nous voulons prendre un enfant que nous allons mettre chez nous, nous allons nous en occuper et puis on va lui donner l'affection qu'on devait donner à ses propres enfants. Ça peut pallier un peu, assouvir tant soit peu cette envie qu'on avait d'avoir ses propres enfants. Je pense qu'ils n'ont qu'à accepter leur situation et peut-être s'il y a moyen d'adopter un enfant qui puisse remplacer le désir, remplir le désir et la place qu'ils avaient pour. Mais Cédric me pose la question de savoir si la femme est orgueilleuse, elle est niaise d'elle-même, si le dialogue, il n'y a pas de solution, la parole de Dieu, il n'y a pas de solution. Bon, moi je me pose la question de savoir pourquoi cette femme se comporte comme ça. Peut-être qu'elle ne veut pas de ce mariage. Bon, parfois à un certain moment, il y a des situations où on dit c'est tellement difficile que l'on puisse continuer à vivre ensemble. On se fait plus de mal que de bien. Et que même parfois on peut envisager de divorcer. Si c'est vraiment établi que cette femme ne peut pas reculer, on peut établir un divorce en bonne et due forme. En ce moment-là, quelqu'un peut recommencer sa vie et être en paix. Parce que si on vit à côté d'une personne comme celle-là, c'est sûr que l'amour, même s'il est là, ne va pas grandir, il sera étouffé. Si l'homme est devenu la risée du quartier parce que chez lui, c'est la femme qui rentre à 1h du matin, bon, moi je crois que c'est un comportement hors du commun, un comportement bizarre. Donc, s'il n'y a pas vraiment un amour, si on a tenté tout ce qu'on pouvait tenter, on a fait intervenir des gens qui pouvaient aider, bon, regardez-vous en face, prenez le courage entre les deux mains, ben, prenez la décision qui s'impose. Et demandez à cette femme si elle veut continuer à vivre avec son mari, si elle veut alors qu'elle change de comportement. Si elle ne veut pas, peut-être la procédure du divorce. Hein?
Voilà.
Donc, faire autrement.
Oui, voilà. Que faire pour établir la paix dans un couple avec des tensions permanentes? Vous avez dit, il faut, s'il y a l'amour, il faut cultiver cet amour par des petits gestes de la vie de tous les jours. S'il n'y a pas l'amour, alors s'imposer des sacrifices pour chercher la paix. Vous avez également parlé du dialogue, éviter de condamner l'autre. Mais Isidore Mamanaï, en cas lorsqu'il y a un échange verbal, par exemple, il y a une querelle dans un couple, lequel entre les deux, entre les conjoints, le conjoint doit être stratège ou humilié afin de ramener la paix.
Ah, merci beaucoup pour la question, elle est vraiment importante. Moi, j'estime que c'est l'un ou l'autre, selon qu'on se connaît, selon qu'on a la capacité de gérer une situation, c'est l'un ou l'autre. Mais d'une manière générale, dans notre culture, on demande à la femme de se taire. Quand son mari élève la voix, on demande à, excusez-moi, on demande à la femme de se taire. Mais il peut arriver aussi que quand on a commencé à échanger des paroles et que ça risque de barguer, si l'homme est assez prudent, il peut aussi se taire, il peut se lever, il peut aller derrière la maison, il peut sortir de la parcelle et rentrer quelques heures après. Pour peut-être trouver que sa femme s'est un peu calmée et que peut-être on peut reprendre de discuter sur le même problème. Pourquoi pas attendre le lendemain ou le surlendemain pour évoquer la question quand les nerfs sont un peu... quand les nerfs sont revenus à leur endroit, à leur place.
Il y a certains hommes qui ont...
L'un ou l'autre,
c'est
pour... Ne pas enflammer la situation.
Il y a certains hommes qui, à cause de, pour éviter les querelles, trop de maquiller à la maison, ils passent du temps en dehors du foyer avec des amis, en train de prendre un verre, causer, ils rentrent tard pour dormir et ressortir très tôt le matin.
Bon, je crois que là, ça n'arrange rien du tout. On est en train de fuir sa situation, au lieu de la regarder en face, de la prendre à bras le corps, avec beaucoup de courage et avec intelligence. Je crois qu'on ne peut pas fuir, il ne faut pas fuir sa situation. Elle vous colle à la peau, elle risque d'influencer toute votre vie. Moi, je pense plutôt qu'il faut rentrer à la maison à temps, il faut observer l'autre, il faut essayer d'éviter tout ce qui peut allumer les feux dans la situation de la famille. Il faut peut-être commencer à lui parler autrement, il faut que l'autre se rende compte que quelque chose qui a changé en vous. Peut-être que la femme vous fait des conflits parce que quand vous traînez longtemps, elle pense que vous avez des petites amies à côté, sans peut-être le dire.
Oui.
Moi, je crois que nous avons besoin de nous prouver que nous nous aimons. Et quand nous nous aimons, la vie devient agréable à vivre ensemble. À ce moment-là, quand on termine de travailler, on est pressé à rentrer à la maison.
Isidore Mamanaï,
c'est agréable comme ça que
de
continuer à fuir sa situation.
Isidore Mamanaï, éducateur à la vie intervenant depuis une Bujimaï, au Café Oriental. Je vous remercie.
Merci Daniel et au revoir aux auditeurs de la radio.